mult la, la parole de collègue Seller. Je me permettrai de ne pas présenter. Et dont le titre est politique slash. Slash.
Oh, slash.
C'est un titre. Enfin bon. Slash inconscient.
Slash inconscient.
Alors, j'ai retenu de notre dernière séance cette phrase que Frédéric Pellion a citée. La politique, c'est ce qui lie les hommes entre eux et ce qui les oppose. Je n'ai pas doté de qui elle est, peu importe. Elle me plaît, cette phrase, par sa simplicité et aussi parce qu'elle s'applique aussi bien aux relations de l'un à l'un qu'aux relations internes aux groupes sociaux. Alors, dans ce très vaste sujet que nous abordons cette année, j'ai choisi de laisser de côté ce que Lacan voulait dire en 67, parce que c'est vieux, et d'interroger plutôt de sa possible actualité. Alors, je parle de ceci. Les prises du pouvoir, quels qu'ils soient, dans le champ politique et dans celui de l'inconscient, portent sur la même chose, à savoir les corps. Bien sûr, dès qu'on dit corps, les sujets sont impliqués, évidemment, dans l'un et l'autre cas, dans le champ politique et dans celui de l'inconscient. Et ce sont eux, les sujets, que tous les pouvoirs cherchent à diriger. Mais je postule avec Lacan que leurs affects au sujet, leurs passions, leurs amours et leurs conflits s'enracinent sur les avatars de leur corps. Relire, si vous voulez, sur ce point, la réponse à la question 4 de télévision. Alors, dans la politique au sens banal, il s'agit toujours d'agencer des liens qui permettent aux individus de voisiner de façon réglée, plus ou moins pacifique, mais possible. Ce que Lacan a construit comme étant le discours du maître assure cette fonction par la voie de l'éducation d'abord, avec ou sans la religion, par la voie des institutions ensuite, au premier rang desquelles il y a l'école, puis ce qu'était le service militaire, civil qui revient. Dans tous les cas, il s'agit d'assurer l'opération d'un signifiant maître, d'assurer par ce signifiant maître ce que Lacan nomme la rection du corps, la corporection. Corpo-rection. Corporection. On entend, n'est-ce pas, par assonance, on entend l'érection d'un corps correct. Soit un corps qui convient au lien social d'une époque parce qu'il a incorporé le signifiant maître. Ce que je dis là, c'est ce que l'on a d'abord pensé dans la psychanalyse en termes d'idéal du moi, de moi idéal et de phallus. C'est ainsi d'ailleurs que l'histoire est faite d'épisodes plus ou moins romancés, où les humains peuvent choisir de mourir plutôt que de vivre couchés, comme dit le proverbe. Érection du corps humain. Livre couché. On mesure là le poids des métaphores. Hein? Et on sait combien Freud a spéculé sur la verticalité de l'homme. Il y a beaucoup de textes amusants de Freud sur ce sujet. Autant dire que toute politique est une biopolitique. Ça ne date pas de notre époque, ça ne date pas de Foucault. Lacan l'a marqué lui-même. Alors l'inconscient, quant à lui, du moins celui dont Lacan a achevé l'inventaire, que j'ai appelé l'inconscient réel, qui affecte non pas le sujet, non pas l'âme, mais le corps, vous voyez le petit texte « ou pire », eh bien cet inconscient qui parle avec le corps, vous reconnaissez toutes les expressions de Lacan que j'accumule là, Lacan l'a rebaptisé en 76 du terme de « parler ». C'est l'inconscient qu'il rebaptise du terme de par-l'être, ce qui indique à soi tout seul que son concept va au-delà de ce que Freud avait formulé. Cet inconscient par-l'être, je note qu'il n'a pas vraiment eu parmi les analystes le succès qu'il aurait mérité. C'est un signe peut-être, mais enfin passons. L'essentiel ici, c'est que cet inconscient incorporé préside à ce que je vais appeler, par contraste, avec la corporection qu'assure le discours, la corpodissidence des symptômes. Je rejoins un point qu'a évoqué Rosa. Le terme de dissidence pourrait se discuter, Lacan l'applique à la pulsion, on peut l'appliquer aux symptômes. Cette dissidence, elle peut être discrète ou flambante. Cette dissidence des jouissances symptômes, mais ce qui la caractérise, c'est qu'il y a toujours un écart à l'endroit des normes de jouissance de la corporation. C'est ce qui est écrit par Lacan exactement à l'étage inférieur de la structure des discours. Puisque d'un côté, dans la structure des discours tels qu'il les écrit, Lacan, il y a d'un côté la production de jouissance que tous les individus qui logent dans ce discours partagent. En ce sens, tous les discours fabriquent du communautarisme. Puis de l'autre côté, là où Lacan écrit la vérité, il y a la vérité de la jouissance propre à chacun, qui est en écart par rapport aux jouissances produites. Lacan emploie le terme de « varité » pour désigner la variété de ces vérités de jouissance. Bon, alors à cet égard, nous pouvons dire que l'inconscient par l'être, celui donc qui génère des symptômes de corps, est un principe non seulement de division du sujet, mais de désordre, d'anormativité, a-normativité, si je puis dire ainsi. Et que de ce fait, bien que l'inconscient n'a pas d'intention, hein, attention, les symptômes peuvent prendre un sens politique. De là à traiter les porteurs de symptômes comme des opposants politiques, il n'y a qu'un pas, qui fut d'ailleurs aisément franchi à l'époque stalinienne, et plus largement chaque fois que le discours du maître est consistant. Alors, si je mets l'inconscient à l'heure du dernier inventaire qu'en fit Lacan, il faut aussi que je mette la politique à l'heure de la fin du discours du maître et à l'heure du fameux déclin du père dont on nous parle depuis si longtemps. parce que c'est notre actualité. Le discours du maître, en tant qu'il ordonne, naît hiérarchiquement les liens sociaux, et ceci jusqu'au lien du couple familial. Hein ? Ce discours du maître n'est plus contrebattu qu'il est de toutes parts par les exigences égalitaires qui veulent la parité de l'un à l'autre. À cet égard, le débat MeToo, quoi que l'on en pense par ailleurs, est un signe à coup sûr indubitable que le discours du maître a fait long feu. Pour ce qui est de régler les liens sociaux, familiaux et de couple. Il y a de l'un toujours et partout, certes, mais il y a un changement du régime de l'un. Il n'est plus le un unifiant avec sa violence propre, reste les uns diversifiants, diversifiés et en compétition, pour ne pas dire en lutte. C'est ainsi que le statut politique de la variété des modes de jouissance a changé. Cette variété n'a plus le statut pathologique que le discours du maître lui attribuait. Elle-même ne revendique aucune transgression. Elle-même exige de sortir de la discrimination, d'être reconnue, d'avoir droit de cité et même légalisée. Donc on pourrait développer tout ça, mais je l'évoque juste. Alors aujourd'hui, donc, j'en tire cette première conclusion, je l'ai déjà dit, plaider pour la psychanalyse au nom de la différence qu'elle promeut est une aberration. Car la multiplicité inconsistante des particularités est partout et qui fait en plus le malheur des sujets contemporains. Alors ce changement, cette disparition du discours du maître, change la corporation. Elle-même n'est plus unifiée, car d'un côté, les idéaux du moi, qui n'ont certes pas disparu, deviennent aussi multiples que le sont les profils des familles, où s'enracinent les idéaux. Chaque famille, avec son réel, son imaginaire, ses signifiants propres. Pensez au procès Mera. Famille où il y a des idéaux, mais il faut voir lesquels. Alors, de l'autre côté, tout est permis dans le look, le vêtement, autant que dans les modalités de jouissance les plus diverses, qui maintenant s'étalent et sont reconnues. Du coup, reste comme principe d'unification. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste ce que j'ai appelé il y a longtemps l'induction imaginaire. L'induction imaginaire que les réseaux sociaux ne font pas plus que surmultiplier, et qui joue de l'imitation d'un côté et de la pression de groupe, et parfois aussi de l'exemple pris d'un autre particulier. C'est ainsi que de nos jours, par exemple, la corpo-exception devient une valeur en soi, et que l'on acclame comme une merveille n'importe quelle performance, aussi dérisoire soit-elle, performance corporelle, hein, aussi dérisoire soit-elle, à condition qu'elle soit inédite. C'est ainsi aussi que l'on voit tant de sujets expliquer combien, dans l'errance où ils se sont trouvés à un moment, une personne rencontrée a suffi à les réorienter, fonction de l'exemple. Donc le un diversifiant, eh bien, c'est celui que Lacan a non pas prédit, on a parlé des prédictions de Lacan, c'est celui que Lacan a non pas prédit, mais bel et bien diagnostiqué, comme déjà là, quand il a dit « il n'y a que des épars, des assortis ». Il ne faut pas s'imaginer qu'il ne parlait que des psychanalystes. C'est un diagnostic de la subjectivité de notre époque, de son époque. Parce que c'est déjà vieux, c'était en combien ? En 76, ouais. Alors, si je m'exprime ainsi, il faut que je place la politique freudienne dans cette perspective. J'appelle politique freudienne celle que Freud a pensée, pas celle de sa personne. D'un bout à l'autre, c'est une politique du règne du père-maître, confondu, le maître-père ou le père-maître, comme vous voulez. Voyons plutôt. Psychologie collective analyse du moi. On y lit, sans doute possible, que le père, celui du trio édipien familial, le père de famille, qui est inscrit par l'identification dans la subjectivité de chaque sujet, eh bien, il est aussi inscrit dans l'ordre social, dans les institutions. Il n'est pas seulement dans le chef de la famille de chacun, il est chef d'armée, il est chef d'église, et que l'amour infantile de ce père de la famille, de l'Édipe, fonde, transféré sur le chef de l'église, de l'armée et tous les chefs du même genre, fonde la solidarité du groupe, sa consistance, sa cohésion, et fonde même la fraternité, animée par l'idéal de justice, au prix, il est vrai, Freud le note, d'une ségrégation. Alors Lacan commente, c'est ça que Lacan commente dans sa note du temps logique, quand il dit que selon Freud, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Ça s'applique à ce texte, psychologie collective et analyse du moi. Et puis voyons Totem et Tabou, le meurtre du surmâle possesseur de toutes les femmes. Eh bien, avec la barre mise par le meurtre sur ce pérorant outan, comme dit Lacan ironiquement, hein, Freud met l'amour posthume pour le père au principe du ciment social entre les hommes, réglé, entre les hommes, au sens sexué du terme cette fois, et au principe de leur relation possible en outre de chacun à l'autre sexe. Fonde l'amour posthume pour le père, l'amour entre les frères et l'amour possible des hommes pour les femmes. C'est magnifique. Quant au Moïse de Freud, c'est un texte immense, je n'entre pas dans le commentaire, mais au fond, il s'agit de mettre encore le père, mais cette fois un père moins viscéral, hein, au principe de ce que je pourrais appeler une politique de raison, dont Freud se permettait de rêver. D'un bout à l'autre, c'est la politique du maître-père. C'est la structure d'une société... d'un bout à l'autre, c'est la structure d'une société ordonnée par le discours du maître que Freud a formalisé. Elle correspondait à son temps où les liens de discours tenaient encore et dans lequel un terme commande à l'autre, commande à d'autres. Le père chef de famille à la troupe de la famille, la femme et les enfants, comme autrefois le maître antique commandait aux esclaves, comme le chef d'armée et d'église commande aux soldats et aux fidèles. C'est la même structure. Et c'est ainsi que lui, Freud, a rejoint la subjectivité de son temps. C'était pas celle d'aujourd'hui. Et au fond, Lacan, par la même voie de l'analyse, a fait de même, je crois, avec le sien de temps, parce qu'il y a une convergence, en effet, entre ce à quoi l'inconscient parle être et le discours d'aujourd'hui préside. l'homme, en trois lettres, on peut l'écrire comme la grâce à la fin, ou comme vous voulez, l'homme tombe sous le coup de ce que Lacan, de ce qu'il y a de réel dans le langage, n'est-ce pas ? L'homme auquel le langage a porté ce que Lacan appelle le coup du réel. Eh bien, pour lui, pour cet homme, il y a de l'un, et ce un n'est pas unifiant. Il est diversifiant, il le distingue. Je cite « les langages », sous-entendu « les langages de l'inconscient ». Les langages tombent sous le coup du « pas tous », de la façon la plus certaine. Vous trouvez ça dans l'étourdi. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun langage, métalangage, aucun langage au singulier qui serait l'exception des langages de l'inconscient et qui en ferait un tout. Puisqu'il faut une exception pour constituer un tout, comme Lacan nous l'a appris. Les inconscients sont donc eux-mêmes des épars, des assortis. De son côté, le capitalisme, en détruisant les liens traditionnels, ne laisse subsister que les différences particulières. Que ces techniques multiplient d'ailleurs, mais qui elles-mêmes, ces différences, tombe sous le coup de cette logique du « pas toutes ». Faute du « un » du maître majuscule, qui en ferait un tout, un univers, une sphère, comme dit Lacan. Dans cette situation, il faut modifier la formule. Le collectif n'est pas le sujet de l'individuel, mais le collectif à même structure que le sujet de l'individuel, celle du un, irréductiblement diversifiant et épars. Ça nécessite, par conséquent, aussi de repenser les liens sociaux d'aujourd'hui, ce que Lacan a écrit. Et Lacan, j'ai essayé de le développer ailleurs, a ouvert la voie pour repenser ces liens sociaux. Alors, que dire alors du père que Lacan n'a pas seulement repensé, mais substitué à celui de Freud, à celui de l'édit freudien ? Comment situer l'exception du dire que non à la fonction phallique ? Que Lacan a donc substitué au père de l'édit, c'est lui qui le dit, et dont il fait la condition logique du pour tout x phi de x qui fait l'homme, le pour tout x phi de x. Eh bien, cette exception, elle ne perpétue pas le père de l'Édipe auquel elle se substitue. Elle ne perpétue pas la confusion entre le maître et le père dans laquelle Freud et son époque ont baigné. Alors, je fais maintenant quelques remarques pour établir ce que je dis là. Pour vous donner des indications ou chercher ce qui pourrait l'établir. Elles sont plus difficiles, ces remarques, je sais, mais elles sont assurées si on saisit ce qui se construit dans l'étourdi. Je le résume avec les expressions, des expressions de Lacan qui devraient nous frapper, mais qui ont été peu commentées. Partons de ceci. Là où Freud dit Édipe, soit maître-père, c'est ce qui fait l'homme, pas la femme, Lacan, après avoir d'abord suivi et même renforcé cette thèse de Freud, pose que le pour tout x phi de x est ce qui fait l'homme. Le dire que non paternel en est la condition logique de ce pour tous. Mais quel est son effet propre à se dire que non ? Rien d'autre, et je dis bien rien d'autre, que ce que Freud a nommé castration. le propre de l'homme, dit Lacan, pas de la femme. Dans le lien au père, je cite, la castration, le père, quand il dit dans le lien au père, c'est celui de dire que non, dans le lien au père, la castration relaye, et relayer veut dire remplace, hein, remplace, la castration remplace ce qui, dans chaque discours, se connote de virilité. Elle remplace donc la castration, dans la construction de Lacan, les idéaux de la virilité propres à chaque discours, dans chaque époque. Car ces idéaux, bien sûr, fluctuent dans l'histoire. Ceux de la Chine de Confucius ne sont pas, à l'évidence, ceux des armées de Napoléon. Hein. Pourtant, des deux côtés, toujours, il y avait des idéaux de la virilité. Ce qui fait l'homme, c'est la castration, selon Lacan. À savoir une négativation, mais symbolique, celle du phallus, laquelle ne soustrait rien de réel, mais négative le symbole qui, à l'origine, a été régalé aux garçons. Et Lacan, de mettre les points sur les i. Immédiatement après ce que je viens de citer, il dit « Il y a donc, je souligne donc, deux dimensions du pour tout homme. » Il écrit « pour tout homme » phonétiquement en un seul mot. Il y a celle des discours dont il se pourtoute, ceux des idéaux de la virilité, hein, qui sont a posteriori, et puis il y a l'autre dimension, celle dont il se tome, et il écrit phonétiquement avec un T, ce qui fait tome, hein, il écrit phonétiquement ce que l'on entend, et cette dimension-là est a priori. La psychanalyse freudienne, Lacan le précise, procède de cette dernière dimension. La psychanalyse inventée par Freud. Hein. Du pour tout homme, donc, les formules de la sexuation n'écrivent que ce qui fait homme. Elles laissent au discours a priori la fabrication d'autres choses. À quoi contribuent les idéaux et que Lacan nomme les races. Et en premier lieu, celle de la race des hommes maîtres. Il précise Lacan ce qui fait homme, qui ne vient pas des discours, le semblant phallique, a priori, jeu de pile ou face, dit Lacan. Également, ce qui en résulte, il n'y a pas de rapport sexuel, qui est corrélatif. Une jouissance, la phallique, qui est castrée, à quoi s'ajoute le plus de jouir. Ce ne sont pas des effets de discours. Ce sont des effets du coup du réel porté par le langage. La psychanalyse permet d'isoler cette dimension qui fait l'homme, l'homme castré par l'homme maître et qui ne fait pas la femme. Ça, c'est une parenthèse. Qu'elle soit a priori veut dire non sujet à l'histoire, car l'effet de langage et transhistorique, contrairement à l'effet discours et à l'effet freudien. C'est pourquoi d'ailleurs, la psychanalyse peut avoir un message et une portée universelle qui transcende les ancrages linguistiques et culturels. Point très important pour la paix internationale. Alors, conclusion de ce premier point. Et je la crois cruciale. La fin du maître-père, lui bien historique, ne fait pas la fin de l'homme. Et Lacan l'écrit, je vais vous l'écrire parce que justement il y a trop de phonétique dans son écriture, il l'écrit, l'homme, moins un. Voilà la nouvelle écriture du partenaire de la patoute, l'homme moins un. Bon, eh bien, l'homme moins un, c'est un joli graphisme au fond, qui résume ce qui s'écrit du côté des formules de la sexuation à gauche. Eh bien, ce n'est pas donc la fin du permettre, n'est pas la fin de cet homme moins un, c'est même pas la fin de l'homme hétérosexuel, que l'on ne voit pas disparaître d'ailleurs, de notre monde, quoi qu'il y en ait d'autres types sexuels. Bon. Et quand on entend dire dans les médias et à peu près partout, il n'y a plus d'hommes, des vrais, c'est parfaitement exact pour ceux que l'armée forgeait. Hein ? Mais c'était les idéaux de la virilité propres au discours d'une époque, et ils en ont pris un coup, ça ne touche pas à la dimension de ce qui fait homme, l'homme moins un, qui ne fabrique aucune race des maîtres. Alors reste une question, évidemment. Cet homme moins un, c'est celle de ses liens sexués. Comment s'établissent-ils ? Si la castration fait l'homme, qu'est-ce qui opère pour faire sa relation sexuée à d'autres corps ? S'il n'y a pas de rapport inscriptible, Lacan répond à une question qu'il n'a pas formulée comme telle, mais il répond, il dit « Rien n'opère donc que d'équivoques signifiantes, soit d'inconscient, hein, par l'être, et aussi de fantasmes qui soutient toute notre réalité. Autrement dit, seuls les langages des inconscients, ces langages pas tous, qui opèrent au un par un, au cas par cas, peuvent générer les partenaires de suppléance au rapport. Autant dire que l'exception logique du père ne fait pas l'homme maître social, ne fait pas non plus métalangage sexuel, il n'est pas le 1 majuscule des langages inconscients, pas tous, il n'est au principe d'aucun couple standard, fût-il hétérosexuel. Et d'ailleurs, on le sait, dans le pour tout X, fille de X, Lacan place beaucoup de monde et une foule de non-hétérosexuels. Bon. Alors, si nous adoptons le dire de Lacan, je crois qu'il y a de quoi orienter nos commentaires sur l'époque. C'est là-dessus que je termine. Et d'abord, il y a de quoi justifier une internationale de la psychanalyse. Justifier la nôtre, l'internationale, bien sûr, celle du champ lacanien, justifier une passe internationale en raison de la portée universelle de l'effet de langage qui fabrique le parlant sans considération géographique, linguistique ou culturelle. Les discours, eux, varient, mais l'effet de langage ne varie pas. On peut aussi, deuxièmement, définir tout ce que l'on ne peut pas dire ou sous-entendre au nom de la psychanalyse lacanienne. Par exemple, qu'à l'enfant il faut un père de famille, qu'il soit un homme bien sûr, et même si on écoute Winnicott, au petit déjeuner, le père. Eh bien non, puisque le père, le nouveau si je puis dire, qui se réduit à l'exception du dire que non, n'est aucun chef et même aucun homme qui baise la mère. Le père n'est pas le géniteur. Hein ? Alors on ne peut pas nous dire qu'en même temps il baise la mère. Le père n'est pas le géniteur, répète Lacan dans Télévision. Et le baiseur n'est qu'un homme moins un, comme ça, entre autres. Troisièmement, on ne peut pas dire non plus, au nom de la psychanalyse, que la sexualité doit être hétérosexuelle, puisque la castration à elle seule ne décide pas du partenaire. Hein? Et que le langage de l'inconscient qui détermine partiellement le partenaire de la rencontre, lui relève du pas tous. C'est d'ailleurs ce qui éclate aujourd'hui sur la scène du monde, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Enfin, quatrièmement, c'est la dernière, hein, on ne peut pas dire que la procréation doit se faire sans intervention de la science, puisque le père n'est pas le géniteur, thèse d'origine chez Lacan. Donc, aucune forme de reproduction des corps aidée par la science ne peut porter atteinte à la fonction, à ce qui reste de la fonction père. Bon, on pourrait en trouver d'autres. Je m'arrête. Je m'arrête. Je dois vous dire qu'il me reste bien des questions. Mais je ne peux parler que des questions pour lesquelles je me suis formulé la réponse. Comme le dit Maurice Blanchot, la réponse est le malheur de la question. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, la réponse est le malheur de la question puisqu'il enterre la question en principe. Mais apparemment, Maurice Blanchot ne savait pas que la question, parfois, c'est la réponse. Et c'est le cas, justement, sur le dernier point que j'ai évoqué concernant la reproduction. Comment la vie se reproduit-elle, demande Lacan. Justement comme ça, en reproduisant la question qui fait la réponse. C'est une très jolie façon, quoique un peu contournée, bien sûr, comme toujours, c'est une très jolie façon, j'en conviens, d'évoquer une irréductible limite du savoir analytique. Voilà.